Mais tout d'abord, on fait un retour sur le dépôt du budget provincial qui avait lieu le 17 mars dernier. Dans un contexte d'austérité, le milieu communautaire avait formulé plusieurs demandes, notamment par rapport à l'aide sociale, à l'accessibilité aux logements sociaux et dans les services du système d'éducation. Il est très tôt pour tenir une analyse approfondie, mais on est tout de même en mesure de dresser les grandes lignes de ce budget et parler des impacts possibles sur la vie des personnes en situation de handicap. L'organisme Execo travaille pour une société plus juste et inclusive et notre collaborateur, M. Benoît Racette, organisateur communautaire chez Execo, est dans nos studios. Bonjour Benoît.
Bonjour Maxime.
Merci d'être avec nous ce midi. Tout d'abord, bon, ça fait à peine quelques jours que le budget a été déposé, mais on est déjà capable de cerner certains enjeux auxquels il va falloir réagir très rapidement. Donc, on se questionne un budget, mais oui. Pour qui?
C'est une très bonne question. Il y a beaucoup d'investissements pour les entreprises dans ce budget-là. On n'est pas très surpris. C'est un gouvernement très logé à droite qui nous sert ce budget. On a fait miroiter un peu la fin de l'austérité en disant, bon, on va maintenant, après une maison en ordre, davantage investir dans les programmes. J'en suis pas sûr. Encore aujourd'hui, on est toujours un peu à fouiller ce qui s'est passé. Et je veux juste préciser d'emblée que ce budget dresse les grandes lignes, mais qu'il existe encore, je vous le dis à vous citoyens, citoyennes, une zone de négociation. En fait, on s'en va tranquillement vers l'étude des crédits budgétaires. Donc, ça veut dire qu'en commission sur la santé et les services sociaux, donc réunissant tous les partis, on va pouvoir étudier point par point ce budget-là et peut-être aussi identifier qu'on a oublié du monde, qu'on a oublié du financement. Mm-hmm. Et ça sera à nous là, à faire pression à ce moment-là.
Donc, il y a quand même une petite fenêtre de négociation.
Exact.
Pour combien de temps pour les prochaines semaines?
Bien, en fait, c'est toujours un peu compliqué. C'est pas annoncé. Il faut attendre aussi le budget fédéral. Bon.
Sort aujourd'hui, qui est déposé aujourd'hui.
Voilà. Et donc, on se doutait bien, la gang à Québec était bien informée sur ce qu'il y avait dans ce budget-là. D'ailleurs, je t'avais pas dit que je te parlerais de ça, mais il y a quand même des investissements à venir en transport. Et c'est important parce qu'il y a de l'argent pour le transport collectif et on espère, on compte sur le gouvernement fédéral pour mettre de la pression parce qu'il y a quand même deux ministres très sensibles aux besoins des personnes en situation de handicap. Donc, on compte sur le gouvernement fédéral pour mettre de la pression sur la mise en accessibilité du métro, entre autres.
Entre autres, justement, dans cette question des transports-là, effectivement, c'est sur les deux paliers, donc ce sont des enjeux plus complexes aussi. Avant d'aller parler plus concrètement de différents aspects du budget, notamment la question du transport. Il y a déjà plusieurs organisations qui ont émis des communiqués suite au dépôt du budget. Et dans notre émission du 21 mars, on a justement abordé brièvement le budget avec le directeur du réseau FADOC, la Fédération de l'âge d'or du Québec. Quelles sons de cloche on obtient des organismes?
Bien, leur son de cloche rime avec nos casseroles. un petit peu, parce que c'est sûr que, il le rappelle, on est face à un système dysfonctionnel qui a été extrêmement transformé par le Dr Barrette avec ses lois 10 et sa loi 20. Donc, on a beaucoup centralisé les choses. C'est très difficile, très opaque pour nous de comprendre quelles sont les dépenses réelles. Mais sur le terrain, on constate des coupures pour les personnes en situation de handicap. Donc, pensons entre autres au soutien à domicile. C'est très important parce que le gouvernement du Parti libéral du Québec avait fait des engagements, avait fait des promesses claires en 2014. Il avait dit investir 750 millions pour le soutien, ou plutôt les soins à domicile, 650 millions par année. Et on n'est pas trop sûr que c'est ça. Mm-hmm. En fait, on a réussi à retracer un 88 millions cette année, mais il y a aussi une partie de l'argent, je pense au soutien qui sont plus des soins infirmiers, etc., qui sont ventilés ailleurs, mais il manque d'infirmières. La FADOC le dit aussi, il manque d'infirmières. Il manque de ressources en travail social. Nous, c'est ça qu'on dit aussi, là. Moins d'ergos, moins de travailleuses sociales. Fait que ça vient impacter sur les services sur le terrain pour les personnes en situation de handicap.
Est-ce qu'il y avait un autre secteur en particulier qu'on a remarqué? Celui-là du soutien à domicile, c'est un dossier important.
Ben, c'est en santé.
Execo parle beaucoup.
Ouais.
C'est une question très importante en santé. Mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs auxquels on peut déjà remarquer soit des manques ou des gains qui ont
ouais.
été apportés?
Bien, en fait, c'est ça. Je clorerais peut-être... Bon, le soutien à domicile, ça fait partie de la grande famille de la santé et des services sociaux. Hein, je veux juste le dire. Les économistes s'entendent pour dire que ça prend 4 % de dépenses pour y arriver. On est à 2,4 % d'augmentation. Donc, c'est pour ça que les aînés avaient un peu crié. Nous aussi, on est inquiets de ça. Mais tu as raison, il y a l'éducation. Il y a l'éducation aussi. Hein? Et donc, moi, je dirais qu'il y a comme une prise, là. J'espère, en tout cas, qu'il y a une prise. Vous le savez, il manque des professionnels. Ça, c'est le défaut. On en a coupé beaucoup. On dit qu'on va peut-être réinvestir pour soutenir la réussite des élèves. Par contre, je ne suis pas sûr que ça va toujours vouloir dire d'embaucher plus de professionnels dans le public.
Mm-hmm.
Je me demande si on ne va pas faire appel beaucoup, peut-être aux organismes communautaires, en tout cas au milieu. Il faut surveiller ça, parce que défaire un système public comme le nôtre, comme on est en train de faire, c'est risqué à long terme. Mais on dit qu'on va investir dans brique. Ça va être ça.
tu me l'apprends aujourd'hui dans la brique, dans les infrastructures.
C'est
donc,
ça. Puis qui dit brique?
Qui, cela dit, reste tout de même essentiel et nécessaire, un réinvestissement.
C'est important, non, mais il faut dire parce que les édifices ont beaucoup de misère. Les écoles, on sait, certaines sont dans des mauvaises conditions. Mais ce que je veux dire, c'est que si on réinvestit dans la brique, peut-être qu'on va améliorer la performance en accessibilité. Moi, ça serait un vœu pieux que je ferais.
Mm-hmm.
J'ajouterais, on parle de brique, mais ça veut dire du logement aussi, ça, de la brique. Hein? Et vous avez sûrement entendu le Frappru, mais aussi d'autres groupes qui se sont inquiétés de la diminution du nombre de logements sociaux. En fait, avant 2015-2016, on promettait 3000 unités de logement social par année. Ce que le gouvernement a fait depuis maintenant deux budgets, c'est qu'il a réduit ça à 1500. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre monde, ça? Quand on construit des logements sociaux, on pense à l'accessibilité universelle. Quand on donne un supplément au loyer, comme c'est la stratégie du gouvernement, il a dit qu'elle a enlevé des unités de logements sociaux pour donner des subventions au monde qui avait de la misère à payer, mais ça peut être dans le privé, ça peut être en coop, etc. Ça fait qu'on est... il y a des risques qu'on ait moins de nouveaux logements accessibles. Et on le sait, c'est très peu important le nombre de logements accessibles, adaptables ou adaptés. Alors... ça, pour nous, c'est un problème du budget. Il faudra continuer de surveiller là, que ces unités de logements sociaux-là vont faire de la place pour notre monde.
Il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on aborde quand même certains points. On avait déjà commencé à parler de la question du transport. Il faut attendre de voir quel sera l'apport du fédéral dans ce budget qui est déposé aujourd'hui, le 22 mars. Mais donc, il y a la question à la fois du transport régulier, toute cette mise en accessibilité, mais aussi le transport adapté qui reste un service essentiel.
Absolument. Et ça, on doit revoir, hein, parce qu'il existe un plan d'action. Il y a des engagements 2015-2019 qui ont été pris par le gouvernement à l'égard de la politique à part entière pour un véritable exercice du droit à l'égalité. Là-dedans, on dit qu'on va revoir le transport dans les prochaines années. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je suis souvent inquiet parce que d'habitude, on met sur la table, ben, voulez-vous du transport régulier ou vous voulez du transport adapté? Parce qu'on ne peut pas payer pour les deux.
On a tendance à opposer les deux systèmes alors qu'en fait, ils sont complémentaires.
Parfaitement, mon Dieu, vous devriez travailler en pression publique pour faire entendre ça au ministère des Transports. Mais je voudrais... finir avec quelque chose de très important. Quand on fait des choix budgétaires, quand on bouleverse à ce point un système, il faut rester à l'écoute des besoins des gens. Et moi, ce qui m'inquiète particulièrement avec les réformes, c'est qu'on réduit de plus en plus l'espace démocratique et l'espace pour les personnes d'identifier les problèmes. On a appris il n'y a pas longtemps que le commissaire à la santé allait être coupé. Et donc...
Oui, très, très récemment, c'est sorti dans les nouvelles.
Il a pris lui-même à peu près avec le budget. Donc, ça, c'est très inquiétant parce que ce sera le ministère de la Santé et des Services sociaux qui jugera seul de ces changements et de l'impact sur la santé. Et un des acteurs qui va étudier ce que le commissaire faisait, c'est un institut qui s'occupe de la performance. On s'entend que la performance dans la gestion des ressources puis des effectifs, ça n'a rien à voir avec le droit à la santé, ça n'a rien à voir avec... les besoins réels des personnes. Et donc, il n'y a plus d'instances pour évaluer ça correctement. Le PHQ, on peut en parler, l'Office des personnes handicapées, ils ont beaucoup de pain sur la planche, aucune augmentation de leur budget, et ils doivent réévaluer tous ces programmes. Moi, quelqu'un m'a déjà dit, écoutez, vous savez, les programmes pour les personnes en situation de handicap, ça peut à peu près se décliner en plus de 150 programmes. C'est du stock, c'est du sport. Et est-ce qu'on aura les moyens, en plus, parce que les comités d'usagers, ils ont été fusionnés, sont rapetissés, ils couvrent des territoires plus grands, est-ce qu'on aura l'espace pour faire entendre quand il y a des erreurs, pour montrer les besoins comme ceux qu'on a relevés? On en a vu, nous, des coupes sur le terrain. Mm-hmm. On envoie un soutien à domicile, on envoie avec les services de santé, on envoie un logement. Est-ce que ce gouvernement-là n'a pas fermé la porte de la démocratie pour imposer celle d'une gestion hyper performante? C'est un peu la question qu'on pourrait se dire à la lumière de ce dernier budget.
Merci beaucoup. Benoît Racette, organisateur communautaire chez Execo. Vous travaillez tous les jours à une société plus inclusive. Merci d'avoir ce poste de surveillance et de nous rappeler à l'ordre et de nous faire connaître les enjeux qui sont prioritaires dans notre société.
Merci pour ton émission surtout.
Merci.